Chapitre 8. Les deux mondes. Nous avons maintenant défini précisément les notions en jeu, et surtout, nous nous sommes familiarisés avec les ordres de grandeur atteints en pratique par l'inégalité face au travail et face au capital dans les différentes sociétés. Il est grand temps de reprendre le cours de la chronologie et d'étudier l'évolution historique des inégalités dans les différents pays. Pourquoi et comment la structure des inégalités s'est-elle transformée depuis le XIXe siècle? Nous allons voir que le choc des années 1914-1945 ont joué un rôle essentiel dans la compression des inégalités au XXe siècle et que ce phénomène n'a pas grand-chose à voir avec une évolution harmonieuse et spontanée. Nous verrons également que la hausse des inégalités depuis les années 1970-1980 met en jeu de très fortes variations entre pays, ce qui suggère là aussi que les facteurs institutionnels et politiques ont joué un rôle central. Un cas simple, la réduction des inégalités en France au XXe siècle. Nous allons commencer par étudier assez longuement le cas de la France, qui a le mérite d'être bien documenté grâce à la richesse des sources historiques disponibles, relativement simple et linéaire, autant qu'une histoire de l'inégalité peut l'être, et surtout globalement représentatif de l'évolution générale observée dans plusieurs pays européens, tout du moins en Europe continentale. Par certains côtés, le cas du Royaume-Uni est intermédiaire entre le cas européen et le cas américain, ainsi dans une large mesure qu'au Japon. Puis nous passerons au cas des États-Unis, et enfin nous étendrons l'analyse à l'ensemble des pays développés et émergents pour lesquels il existe des données historiques adéquates. Nous avons représenté sur le graphique 8.1 deux évolutions. D'une part, celle de la part du décile supérieur de la hiérarchie des revenus dans le revenu national, et d'autre part, celle de la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires dans la masse salariale. Trois faits apparaissent clairement. Tout d'abord, les inégalités de revenus ont fortement diminué en France depuis la Belle Époque. La part du décile supérieur est passée d'environ 45-50% du revenu national à la veille de la Première Guerre mondiale à 30-35% aujourd'hui. Il s'agit d'une baisse de près de 15 points de revenu national, ce qui est considérable. Cela représente une réduction de l'ordre d'un tiers de la part des richesses produites que reçoivent chaque année les 10% les plus riches, et une augmentation également d'environ un tiers de la part reçue par les 90% restants. On peut aussi noter que cela représente en première approximation l'équivalent des trois quarts de ce que recevait la moitié inférieure de la population à la Belle Époque, et plus de la moitié de ce qu'elle reçoit aujourd'hui. Rappelons également que nous étudions dans cette partie l'évolution de l'inégalité des revenus primaires, c'est-à-dire avant prise en compte des impôts et transferts. Nous verrons dans la prochaine partie dans quelle mesure les impôts et les transferts ont permis une réduction des inégalités plus importante encore. Précisons aussi que cette diminution des inégalités ne signifie pas que nous vivons aujourd'hui dans une société égalitaire. Elle traduit surtout le fait que la société de la Belle Époque était extrêmement inégalitaire, l'une des plus inégalitaires de l'histoire, sous des formes et suivant une logique qui, semble-t-il, serait difficilement acceptée aujourd'hui. Le deuxième fait essentiel, qui apparaît nettement sur le graphique 8.1, est que cette forte compression des inégalités de revenus au cours du siècle écoulé est entièrement due à la chute des hauts revenus du capital. Si l'on retire les revenus du capital, et si l'on se concentre sur l'inégalité des salaires, on constate une très grande stabilité de la répartition dans le long terme. Dans les années 1900-1910, comme dans les années 2010, la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires se situe aux environs de 25% de la masse salariale totale. Les sources dont nous disposons indiquent également une stabilité sur longue période des inégalités salariales dans le bas de la distribution. Par exemple, les 50% des salariés les moins bien payés ont toujours reçu autour de 25-30% de la masse salariale totale, soit un salaire moyen au sein de ce groupe de l'ordre de 50-60% du salaire moyen de l'ensemble des salariés, sans tendance claire dans le long terme. Le niveau des salaires a évidemment beaucoup changé depuis un siècle, et la structure des métiers et des qualifications s'est totalement transformée. Mais les hiérarchies salariales sont restées approximativement les mêmes. Sans la chute des hauts revenus du capital, l'inégalité des revenus n'aurait pas diminué au XXe siècle. Ce fait ressort de façon encore plus spectaculaire lorsque l'on gravit les échelons de la hiérarchie sociale. Examinons en particulier l'évolution constatée au niveau du centile supérieur. Par comparaison, au sommet inégalitaire de la Belle Époque, la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus s'est littéralement effondrée en France au cours du XXe siècle, passant de plus de 20% du revenu national dans les années 1900-1910 à environ 8-9% dans les années 2000-2010. Cela représente une division par plus de 2 en un siècle, voire une division par près de 3 si l'on considère le point bas d'à peine 7% du revenu national atteint par la part du centile supérieur en France au début des années 1980. Or, cet effondrement est là encore uniquement dû à la chute des très hauts revenus du capital, la chute des rentiers pour simplifier. Si l'on se concentre sur les salaires, alors on constate que la part du centile supérieur est presque totalement stable sur longue période, autour de 6-7% de la masse salariale. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'inégalité des revenus, telle que mesurée par la part du centile supérieur, était plus de 3 fois plus forte que l'inégalité des salaires. Aujourd'hui, elle est plus forte d'à peine un tiers et se confond dans une large mesure avec l'inégalité des salaires, à tel point que l'on pourrait s'imaginer, à tort, que les revenus du capital ont quasiment disparu. Pour résumer, la réduction des inégalités en France au XXe siècle se résume dans une large mesure à la chute des rentiers et à l'effondrement des très hauts revenus du capital. Aucun processus structurel de compression généralisée des inégalités, en particulier des inégalités face au travail, ne semble être à l'œuvre dans le long terme, contrairement aux prédictions optimistes de la théorie de Kuznets. Il s'agit là d'un enseignement fondamental concernant la dynamique historique de la répartition des richesses. Sans doute la leçon la plus importante du XXe siècle, d'autant plus que l'on retrouve ces mêmes faits avec de légères variations dans l'ensemble des pays développés. L'histoire des inégalités, une histoire politique et chaotique. Le troisième fait essentiel qui ressort des graphiques 8.1-8.2 est que l'histoire des inégalités n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite d'innombrables rebondissements et certainement pas d'une tendance irrépressible et irrégulière vers un équilibre naturel. En France, comme d'ailleurs dans tous les pays, l'histoire des inégalités est toujours une histoire politique et chaotique, marquée par les soubresauts de la société concernée, par les multiples mouvements sociaux, politiques, militaires, culturels, autant que proprement économiques, qui rythment le pays en question au cours de la période considérée. Les inégalités socio-économiques, les disparités de revenus et de fortunes entre groupes sociaux sont toujours à la fois cause et conséquence des autres faits et des autres sphères. Toutes ces dimensions sont toujours inextricablement liées les unes aux autres. C'est pourquoi l'histoire de la répartition des richesses constitue à toutes les époques une véritable grille de lecture de l'histoire générale d'un pays. En l'occurrence, il est frappant de constater à quel point la compression des inégalités de revenus en France au XXe siècle se concentre autour d'une période bien particulière, les chocs des années 1914-1945. La part du décile supérieur dans le revenu total comme celle du centile supérieur ont atteint leur point le plus bas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et semblent ne s'être jamais remises de ces chocs extrêmement violents. Dans une large mesure, la réduction des inégalités au cours du siècle écoulé est le produit chaotique des guerres et des chocs économiques et politiques qu'elles ont provoqués et non le produit d'une évolution graduelle, consensuelle et apaisée. Au XXe siècle, ce sont les guerres qui ont fait table rase du passé, et non la paisible rationalité démocratique ou économique. Nous avons déjà rencontré ces chocs dans la deuxième partie. Les destructions liées aux deux conflits mondiaux, les faillites de la crise des années 1930, et surtout les diverses politiques publiques mises en place pendant cette période, du blocage des loyers aux nationalisations, en passant par l'euthanasie, par l'inflation des rentiers de la dette publique, ont conduit à une énorme chute du rapport capital-revenu entre 1914 et 1945, et à une baisse significative de la part des revenus du capital dans le revenu national. Or, le capital est beaucoup plus concentré que le travail, si bien que les revenus du capital sont massivement surreprésentés au sein du décile supérieur de la hiérarchie des revenus, et particulièrement au niveau du centile supérieur. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que les chocs subis par le capital, en particulier le capital privé, au cours de la période 1914-1945, aient conduit à une chute de la part du décile supérieur, et plus encore du centile supérieur, et pour finir, à une forte compression des inégalités de revenus. L'impôt sur le revenu ayant été créé en 1914 en France, le Sénat bloquait la réforme depuis les années 1890 et la loi ne fut finalement adoptée que le 15 juillet 1914, à quelques semaines de la déclaration de guerre, dans un climat de tension extrême, il n'existe malheureusement pas de données annuelles détaillées sur la structure des revenus avant cette date. Les multiples estimations de la répartition des revenus réalisées autour de 1900-1910 en vue de la création de l'impôt général sur le revenu et afin d'en prévoir les recettes permettent de connaître approximativement la très forte concentration des revenus en vigueur à la Belle Époque. Mais elles ne sont pas suffisantes pour mettre en perspective historique le choc de la Première Guerre mondiale. Il aurait fallu pour cela que l'impôt sur le revenu soit créé quelques décennies plus tôt. Nous verrons que les données issues de l'impôt sur les successions, en place depuis 1791, permettent fort heureusement d'étudier l'évolution de la répartition des patrimoines tout au long du XIXe et du XXe siècle, et conduisent à confirmer le rôle central joué par les chocs des années 1914-1945. À la veille de la Première Guerre mondiale, rien ne laissait présager une baisse spontanée de la concentration de la propriété du capital, bien au contraire. Cette source démontre également que les revenus du capital représentent dans les années 1900-1910 la vaste majorité des revenus du centile supérieur. De la société de rentier à la société de cadre. En 1932, malgré la crise économique, les revenus du capital représentent toujours la source principale de revenus au sein des 0,5% des revenus les plus élevés. Voir graphique 8.3. Si l'on essaie de mesurer la composition des hauts revenus de la même façon dans les années 2000-2010, on constate que la réalité a profondément changé. Certes, aujourd'hui comme hier, les revenus du travail disparaissent progressivement à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des revenus, et les revenus du capital deviennent petit à petit prédominants au sein des centiles et millimes supérieurs de la distribution. Cette réalité structurelle est restée la même. Mais la différence cruciale est qu'il faut aujourd'hui monter beaucoup plus haut qu'hier dans la hiérarchie sociale pour que le capital domine le travail. Actuellement, les revenus du capital ne dominent les revenus du travail qu'au sein d'un groupe social relativement étroit, les 0,1% des revenus les plus élevés, voir graphique 8.4. En 1932, ce groupe social était 5 fois plus nombreux. À la Belle Époque, il était 10 fois plus nombreux. Que l'on ne s'y trompe pas, il s'agit d'un changement considérable. Le centile supérieur prend beaucoup de place dans une société. Il en structure le paysage économique et politique. Le millime supérieur, beaucoup moins. Pour mémoire, le centile supérieur regroupe 500 000 personnes adultes sur 50 millions dans la France du début des années 2010. C'est une question de degré, mais c'est une question importante. Il y a des moments où le quantitatif devient qualitatif. Ce changement explique également pourquoi la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus dans le revenu national est aujourd'hui à peine plus élevée que la part du centile supérieur des salaires dans la masse salariale. les revenus du capital ne prennent une importance décisive qu'au sein du millième supérieur, voire du dix millième supérieur, si bien qu'ils pèsent peu au niveau de la part du centile supérieur considéré dans son ensemble. Dans une large mesure, nous sommes passés d'une société de rentiers à une société de cadres, c'est-à-dire d'une société où le centile supérieur est massivement dominé par des rentiers, des personnes détenant un patrimoine suffisamment important pour vivre des rentes annuelles produites par ce capital, à une société où le sommet de la hiérarchie des revenus, y compris le centile supérieur, est composé très majoritairement de salariés à haut salaire, de personnes vivant du revenu de leur travail. On pourrait aussi dire, plus exactement, ou si l'on souhaite être moins positif, que nous sommes passés d'une société de super-rentiers à une société de rentiers moins extrême que celle du passé, avec davantage d'équilibre entre la réussite par le travail et par le capital. Il est important d'insister sur le fait que ce grand bouleversement ne doit rien en France à un quelconque élargissement de la hiérarchie salariale, qui a été globalement stable sur longue période. Le salariat n'a jamais été ce bloc homogène que l'on imagine parfois, et s'explique entièrement par la chute des hauts revenus du capital. Pour résumer, en France, ce sont les rentiers, ou tout du moins les 9/10 d'entre eux, qui sont passés au-dessous des cadres. Ce ne sont pas les cadres qui sont passés au-dessus des rentiers. Il nous faudra comprendre les raisons de cette transformation à long terme qui n'a a priori rien d'évident, puisque nous avons vu dans la deuxième partie que le rapport capital-revenu n'est pas loin d'avoir retrouvé en ce début du XXIe siècle son niveau florissant de la Belle Époque. L'effondrement des rentiers, entre 1914 et 1945, est la partie évidente de l'histoire. Il est plus complexe, et d'une certaine façon plus important et intéressant, de comprendre les raisons exactes de leur non-reconstitution. Parmi les facteurs structurels qui ont pu limiter la concentration des patrimoines depuis la Seconde Guerre mondiale et qui ont ainsi contribué à empêcher, à ce jour, la reconstitution d'une société de rentiers aussi extrême que celle de l'avant-première guerre mondiale, on pense évidemment à la mise en place d'une fiscalité lourdement progressive sur les revenus comme sur les patrimoines et les successions, quasiment inexistante au XIXe siècle et jusqu'aux années 1920. Mais nous verrons que d'autres facteurs ont également pu jouer un rôle significatif et potentiellement tout aussi important.